Audrey Pinchot. Un marceau tout seul, c'est correct. Open mic, open mic. Un marceau bien accompagné, c'est tellement mieux.
Elle a dit, tiens, toi, c'est ce que je vais faire pour l'open mic, du moins jusqu'à 11h30. Audrey qui me raconte des choses des fois que j'aimerais tellement qu'on puisse amener en ondes.
Mais on peut pas.
Non, on peut pas toujours. Comment ça va, vous autres? J'espère que vous avez passé un super de beau week-end. La météo nous a aidés. Pas trop chaud, pas trop fret.
C'était parfait comme fin de semaine.
C'était juste vrai, là. Parfait. Très content de vous retrouver en ce lundi. Mon nom, c'est Marceau. Son nom à elle, c'est Audrey Pinchot.
Hola!
Vous êtes dans l'open mic. C'est quoi l'open mic?
L'open mic, c'est un show de 10 à 11h30 où on est plus près du monde. Fait qu'hésitez pas à nous écrire. C'est-tu quaterne? C'est-tu trop quaterne?
Coucou!
Non, mais tu sais, on parle beaucoup d'actualité dans notre programmation régulière,
mon
évidemment.
Mon nom, c'est Enrique. Je suis près de vous. Je suis dans vos oreilles.
Non, mais le but, c'est d'être plus humain. Puis la preuve, c'est que ce matin, il y a une de nos invitées.
Il y a vos tétés le lobe, présentement.
S'appelle Marie-Pierre, c'est une auditrice. Et Marie-Pierre est thanatologue. Fait qu'on va jaser de son univers. Quand on vous dit qu'on est plus près de vous, c'est que vos histoires nous intéressent, votre quotidien nous intéresse.
Et thanatologue, c'est eux qui préparent les gens qui viennent de décéder, c'est ça?
Oui, bien moi, c'est ce que je comprends du métier. Moi, on y demandera parce qu'il y a embaumeur aussi. Fait que là, tu sais, comme tout ce que ces gens-là font, moi, je suis pas très familière. Je me tiens loin de tout ça.
Je pense qu'embaumeur, c'était l'ancien nom.
Non, c'était croque-mort, l'ancien nom. Embaumeur, c'est sûr, je pense qu'ils te mettent beau, là.
Non, je pense que c'était l'ancien nom. Croque-mort aussi, c'était l'ancien nom. Tu sais d'où ça vient, le croque-mort?
Non, je suis plus sûr. J'ai déjà entendu l'histoire, par exemple.
C'est, tu sais que moi, j'ai une phobie des pieds, OK? Oui,
t'aimes pas
j'aime
ça,
j'aime pas
sais.
Les pieds. Si mes gars me demandent de couper leurs ongles de pied, je le fais. Mais sérieusement, faut que je me parle dans ma tête.
Ah non, je sais d'où ça vient.
Exact.
Je sais... J'avais oublié!
C'est quand, anciennement, le médecin il se déplaçait pas pour constater la mort de l'individu. C'était la personne qui s'occupait du cimetière.
Ouais.
Puis lui, c'était le croque-mort. Puis la façon qu'il s'assurait dans le temps à savoir si la personne était décédée, il mordait le gros orteil de la personne qui était décédée pour voir si les réflexes allaient être là.
Ça m'écœure tellement.
Ouais. La personne qui faisait ça, elle devait le faire, là. Mais il me semble que j'aurais pris un marteau à la place.
Mais c'est ça, moi aussi j'aurais utilisé un objet. Mais j'ai hâte qu'on lui pose la question parce que tu vois, elle est déjà thanatologue, Marie-Pierre, mais en ce moment, elle fait des études pour être embaumeuse. Fait que je pense que c'est vraiment deux corps de métiers différents.
Elle saura nous expliquer ça.
Ben oui, j'en ai beaucoup des questions.
Mais tu sais, le monde des morts, nous, on s'est toujours posé des questions par rapport à ce monde-là. T'sais.
Oui.
T'sais, à un moment donné, j'ai appris que le massage cardiaque, là, c'était pas nous autres qui l'avions inventé. Là. Ça a été inventé lors des premières guerres. Puis on parle pas de la Première Guerre mondiale. Là. On parle de lors des premières guerres où, une fois que les gens étaient tombés au combat, on considérait qu'ils étaient décédés. On les embarquait sur les chevaux. Puis avec le trot... Ça, c'est vraiment le bruit du trot que je viens de faire.
Ouais.
Avec le bruit du trot, avec la variation du trot, le cœur repartait. Fait qu'on avait découvert qu'on pouvait faire des massages cardiaques pour repartir le corps.
C'est particulier.
Il y a dans des endroits où on mettait les gens dans des tombeaux, mettons en Égypte, il y a eu des pilleurs de tombes qui ont tassé les pierres. Puis les gens se sont aperçus que le dessous de la pierre avait été gratté.
Fait que le monde était vivant.
Donc, il y a des gens qui ont été mis dans des tombeaux en vie.
Ouais.
Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'était-tu des gens qui étaient tombés dans le coma puis qui, quelques jours plus tard, se sont réveillés? Ah non, il y a des histoires
d'horreur. Ça doit être épouvantable pour vrai, là.
Ouais, il y a un film là-dessus. Ce film-là dure, je pense, 1h30. Il y a 2 acteurs maximum dans le film. Puis le gars, c'est un acteur connu de mémoire, là. Il est dans son cercueil enterré, puis il y a un cellulaire dans le cercueil. Puis il communique avec quelqu'un à l'extérieur, puis cette personne-là essaie de l'aider.
Est-ce qu'il y a vraiment une situation possible? On s'entend, là. Ça, c'est vraiment... Ça se passe dans la vie, là.
Mais c'est pas un mauvais film. J'avais été voir ça au cinéma.
Ça te parle tellement pas.
Non. Caroline, il faudrait que je retrouve le titre de ce film-là. Mais c'est 1h30 où le gars est dans sa tombe.
Sous la terre.
sous la terre.
Non, mais tu t'as manqué d'exigence à un moment donné, là.
Puis le gars essaie de l'aider, mais je pense qu'il y a comme toute... De même, ça fait longtemps que j'ai vu ça, là. Mais je pense qu'il y a comme toute une installation, justement, pour qu'il manque pas d'air, là.
C'est original. C'est vraiment très original comme prémisse de film.
Par texto 418-971-1021, savez-vous de quel film que je parle?
D'ailleurs, avec ce numéro de téléphone-là, là, si vous avez des questions pour Marie-Pierre, n'hésitez vraiment pas. Hein. Moi, ça, c'est le genre d'entrevue qui me fait triper parce qu'on va en apprendre. Puis je veux dire, on entend plein d'affaires, mais au final, on n'est pas sur place, tu sais. Fait qu'on sait pas comment ça fonctionne. Fait que j'ai vraiment, vraiment hâte qu'on puisse s'y jaser.
Ça s'appelle Enterré.
Ah, Buried, oui, avec Ryan Reynolds. Ah, oh, ouais, Ryan Reynolds est là-dedans.
Ouais, c'est vraiment pas mauvais comme film, là.
Hé! Hey, 2010.
Ouais.
Ben, tabarnouche, avec Ryan Reynolds, écoute, je vais peut-être me prêter au jeu. C'est sur Crave, en passant, si jamais votre intérêt est là, là.
C'est sur Crave?
Oui, ça serait sur Crave, selon les Google de ce monde.
Mais oui, ça doit faire partie, d'une des pires peurs qu'on peut avoir, là.
Ben, pour vrai, je veux dire, c'est...
Tu te réveilles, puis...
Mais c'est surtout que la panique s'empare de toi. Il n'y a rien de pire que ça.
Je pense qu'il y a un vieux Hitchcock aussi. Ça m'avait marqué. J'écoutais ça dans ma chambre, une petite télé 14 pouces noir et blanc dans le temps. Il y en a qui vont dire « t'es vieux ». Oui. j'écoutais ça le soir et c'était un... Je pense que c'était un homme qui était dans... C'est une femme qui était dans une prison puis elle voulait se sauver. Elle s'est liée d'amitié avec le gars qui s'occupait du cimetière. Donc, quand les détenus décédaient à la fin de leur vie, ben, ils allaient dans cet endroit-là.
Ça s'appelle-tu Final Escape?
Je sais pas. OK. C'est quelle année?
86.
Et il me semble que c'est plus vieux que ça.
OK.
C'est qui avait fait ça, Final Escape?
C'est Hitchcock.
C'est Hitchcock. Ben, ça doit être ça. En tout cas, bref, il est dans une prison. Puis, la personne s'entend avec l'embaumeur. Fait que là, tout est beau, tout est correct, c'était juste pour se sauver. Puis elle a dit, ben quand je vais être enterré, tu viendras me chercher. Puis là, je veux pas vendre le punch, mais en même temps, il faut que je le vende, là. C'est qu'elle allume sa lumière pour savoir qu'est-ce qui se passe dans le cercueil puis avec qui est enterré, parce que ça prenait un mort à mettre dans le cercueil. Puis elle était au-dessus du mort. Elle allume la lumière, puis la personne qui est décédée, c'est le gars qui s'occupait d'elle pour le cimetière.
Ouf.
Ouais.
Ça a l'air bon, mais c'est vraiment ça le titre. J'ai le petit synopsis devant moi, puis ça résume un peu ce que tu disais. Fait que Final Escape, si jamais ça vous parle.
Kill Bill aussi, ça a l'air que c'est ça. C'est ça? Ah oh, ouais, je me rappelle pas.
Je l'ai pas vu, celle-là.
Moi, je l'ai vu. C'est un excellent film, là. Mais bref, de quoi on va parler aujourd'hui? Hey, t'es-tu déjà chicané avec tes voisins, toi?
Hey, ça m'est arrivé une fois. Je te l'avais partagé, une affaire d'arbre sur le mauvais terrain. Il avait coupé notre arbre, ça nous avait même maudit. C'était pas réellement chez nous, là. On louait, mais comme c'était insultant pareil. Fait que c'est pas mal.
Attends,
la
seule chicane. T'es chicané avec ton voisin parce qu'il a coupé un arbre que tu louais.
Oui, exact. Oui, mais c'est le seul arbre qui faisait qu'on avait encore comme pas une vue sur sa maison. Fait que ça nous avait vraiment insulté.
Ouais.
Je pense que c'était le principe de ne pas demander. Pour qui tu te prends? Pour te pointer chez le terrain du voisin, puis couper un arbre parce que toi, t'as décidé que ça faisait pas ton affaire ou il coupait ta vue ou t'aimais pas ça. Ou j'ai bien de la misère avec ça. Fait que ça a été la seule fois où il y a eu une potentielle chicane.
T'as-tu lu l'article de Radio-Canada concernant un gars qui s'appelle Gaétan Terrien?
Je l'ai vu passer, mais je voulais que tu me le racontes.
Tu veux pas Gaétan Terrien dans ta vie?
J'ai juste, dans le titre, OK, là, on parle de remords, d'intimidation puis de menaces.
Oui, ça se passe dans le secteur de Saint-Sylvestre, là. C'est dans le, je pense que c'est dans le comté de Lobinière.
Ouais.
C'est un super de bel endroit, là, si tu vas là. C'est une belle communauté, c'est un gros village, c'est calme, c'est paisible. Moi, j'ai déjà été visiter des chalets là, c'est de toute beauté. Et bref, Gaétan Terrien habite là depuis des années, puis il est tombé en chicane avec ses voisins pour une histoire de droit de passage. Puis ses voisins qui n'étaient pas trop au courant du droit de passage, ben ils savaient, bon, avec les cadastres et tout ça, qu'il y avait un droit de passage, mais ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient. Donc c'était très nébuleux. Et le gars a décidé de les prendre en grippe juste pour les faire suer. Puis il vient d'être condamné à payer 80 000 à ses voisins, en plus de s'être fait décréter une série d'ordonnances visant à assainir le climat.
Je sais pas.
Le gars est allé jusqu'à empoisonner le puits artésien, là, ton eau potable.
Pour
là,
boire, oui.
De ses voisins, juste pour les rendre malades. Puis ses voisins, un de ses voisins a failli mourir d'ailleurs. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a ouvert le puits artésien. Il a mis 8 rats morts dans ce puits artésien, 9 rats morts, pardon, dans ce puits artésien-là. Puis après ça, il a refermé le couvercle. Et là, à un moment donné, le monsieur trouvait que son eau, ça sentait un peu à charogne. Puis sa femme s'est rendue à l'hôpital aussi parce qu'elle avait des saignements lorsqu'elle allait aux toilettes. Donc, c'était
mais
quand
c'est
même...
tout qu'un processus. Il faut que tu trouves 9 rats morts, que tu ouvres le puits, que tu mettes ça là-dedans. C'est comme, c'est beaucoup de rancune. Tu as le temps de réfléchir une couple de fois avant de te rendre à la fin de ton processus. Là.
Bien, pour vouloir les empoisonner, c'est parce que, je veux dire, à quel
t'es
point tu es prêt
mental,
à tuer
voyons,
quelqu'un
voyons,
pour un droit
ça,
de passage?
Non,
là, t'sais. La dame a été extrêmement malade. Par la suite, il a continué. Il a étendu de l'huile sur un chemin de terre parce que lui disait qu'il voulait dépoussiérer le chemin de terre. Puis là, la dame qui regarde les flaques d'huile sur son terrain, elle dit, un peu, là, faut avertir le ministère de l'Environnement. Il y a clairement de l'écoulement d'huile qui se fait sur ce chemin-là. Les pompiers de la municipalité sont arrivés, puis ça n'a pas fait plaisir à justement cet homme-là qui avait épandu de l'huile. Lui, il disait qu'il voulait dépoussiérer. Fait que tu mets de l'huile sur la poussière, fait que quand tu roules, la poussière reste à terre.
Oui, mais mets de l'eau. Voyons, c'est une joke.
De l'huile, ça reste là plus longtemps
mais
que
non,
de l'eau.
Mais c'est
là.
Tellement niaiseux.
Mais oui, tu peux mettre de l'eau, c'est un bon réflexe. En fait, on me dit que ça marche moins, mais c'est moins polluant.
Mais ils font ça dans certains chemins de ZEC. Et quand c'est trop sableux, ils vont arroser à certains endroits parce que sinon, je dis, c'est pas praticable.
Oui, mais faut que tu le fasses à tous les jours. Ça sèche rapidement. Mais tandis que, en passant, faites pas ça. Là. Mais si vous mettez de l'huile, c'est clair et net que ça peut rester pendant une semaine,
mais
deux semaines, trois
con,
semaines, un mois.
Donc.
Ben ouais, c'est con. Mais ça se faisait comme ça dans le temps. Et là, ils ont même été jusqu'à endommager le terrain de golf qui était à côté. Quand tu parlais de cacher la vue tantôt là, pour l'arbre,
oui.
Qui s'est fait couper sur ton terrain que tu avais loué, d'ailleurs. Oui. Lui, il a posé des sièges de toilette dans l'arbre qui, où la vue des deux individus, là, lui, mettait des sièges de toilette sur ses terrains dans les arbres.
Mais voyons!
Fait que là, toi, t'es assis sur ton perron.
Puis tu vois des bols de toilette.
Tu regardes à ta gauche, puis il y a des lunettes de toilette qui sont entreposées.
Mais il est donc bien détestable.
Mais c'est le genre de monsieur que j'aimerais être, moi. Mais j'ai 95 ans, si mes voisins me font suer.
T'es-tu sérieux?
Ben, je sais pas, serais-tu...
Hey, il devrait être en tôle, ce monsieur-là. Là. Il a rien compris, là.
Oh, il y en est pas
assez. C'est ridicule,
c'est
là. Non, mais c'est... Allez voir les photos dans l'article de Radio-Canada. C'est littéralement des couverts de bols. C'est comme s'il avait décoré son arbre de Noël.
Après ça, il mettait des pancartes partout avec l'inscription « Fuck you ». Écoute, le juge, je comprends qu'il n'a pas été de main morte là, avec l'individu là, condamné à des milliers de dollars d'amende. Il a même baissé ses culottes devant la madame.
Ah, ben oui.
Il peut passer la tondeuse à tous les jours.
Je trouve que 80 000, c'est pas assez là, comme amende.
Il peut passer la tondeuse à tous les jours. Puis quand les gens sont sur leur terrain, lui, il s'en va sur le sien, puis il prend une hache, puis il les regarde.
Il est débile! Ce monsieur-là n'a pas de famille. Il n'y a pas quelqu'un qui peut l'avertir, qui peut l'aider mentalement. Il n'est pas stable.
À la fin de l'article de Radio-Canada, on dit que le nom de Gaétan Terrien figure dans une centaine de dossiers judiciaires pour divers litiges depuis 40 ans.
Je sais pas. On nous dit par le texto en passant que pour ce qui est des chemins, là, c'est du calcium liquide qu'il faut mettre. Ils mettent du calcium avec de l'eau, fait que ça reste longtemps en terre.
Ah oui,
c'est ça le truc.
Merci du truc. Mais tu vois, je veux dire, ce gars-là, il s'arrêtera pas, là.
Mais non.
Là, et l'argent, le fameux 80 000, là, parce qu'au départ, il demandait 330 000. Le fameux 80 000, ils reverront jamais ça, le monsieur. Il s'est organisé pour faire faillite, là, pour pas payer ses voisins.
Ça vaut une série Netflix,
un
ce genre de cas-là, pour vrai. Moi,
mais
je ferais vraiment quelque chose avec ça.
Mais tu sais, j'imagine que lui, c'est un monsieur qui était à la retraite, là, pour penser à faire tout ça, pour être aussi créatif.
Pour
là,
en faire ta mission de
ben
vie.
Ben oui,
là.
C'est ça.
C'est débile, là.
Ouais.
Clairement, c'est un monsieur qui est très, très seul, là.
Puis en même temps, ben oui, ben peut-être pas.
Mais là, c'est peut-être... Hey, moi, je m'excuse, là, mon
peut-être
chum
pas.
Vire débile de même à 75 ans,
ouais.
Là.
Mais
j'ai
souvent,
un meeting avec, là.
Souvent, ces hommes-là sont avec des femmes extrêmement douces. Puis là, ils vont essayer d'expliquer que, genre, j'ai mis le couvert de toilette dans... Puis la bonne femme, elle... Ben voyons, pourquoi t'as fait ça, tu sais? Puis elle passe à d'autres choses.
Hé, hey, mon Dieu, que je serais maligne.
Toi, tu serais maligne?
Moi, du monde de même, là. Pourrir la vie des autres pour le plaisir, ça va être correct.
Ouais, ben, tu vois, à Lévis, j'écoutais du Johnny Cash, j'écoutais du AC/DC en faisant... Je faisais la peinture de ma maison à l'extérieur. Puis ça n'a pas plu à mes nouvelles voisines, qui est un petit couple. Puis au départ, ils étaient venus se présenter. Puis après ça, ils sont comme repartis. Et je mettais ma musique, pas fort, c'était en plein jour, là, mettons à 11h l'après-midi.
Ouais.
Puis eux autres, ils mettaient de l'opéra, mais à côté, là, ils mettaient ça dans le fond.
Pour
là.
Te faire comprendre que tu leur tapais ses nerfs.
Ils mettaient les caisses de son par les fenêtres, ouais.
Arrête, j'espère que t'as monté le son.
Non. Moi, je ris.
Pour vrai, t'as arrêté ta musique puis tout?
Non, je laissais ma musique, mais je riais. Là. Je veux dire, ils pourront pas tolérer de l'opéra aussi fort dans leur maison.
Je trouve ça tellement. Hey, je m'excuse, je trouve ça tellement immature. Là. Moi, il me semble que j'irais juste cogner. Excuse-moi, ta musique nous dérange. Ça dérangerait-tu de la baisser ou de mettre des écouteurs à limite, tu sais?
Ouais. À un moment donné, j'écoutais le Rouge et Or de l'Université Laval dans mon stationnement. En fait, je réparais mon véhicule, puis j'écoutais la radio de mon véhicule. Fait que, tu sais, ça faisait quand même assez. C'est du bruit, là. Puis elle passe au travers de ma headset pour aller éteindre ma radio dans mon char. Mais moi, j'étais plus là. J'étais dans la maison, là. J'étais allé chercher quelque chose dans la maison où, ben, j'étais en train
sont-ils
de.
Sont-ils encore là, eux autres?
Ah, sûrement. Je sais pas.
Vous entendez. C'est. OK.
Mais moi, je me suis jamais chicané avec eux autres, là.
Mais eux autres se chicanaient avec toi.
Mais eux autres, dans leur tête, ils chicanaient avec
toi. Bien raide.
Mais ben, quand est-ce que tu vas aller dans le char de ton voisin j'oserais pour jamais. Baisser le son dans son char?
Jamais.
Ouais. Puis tu sais, c'était pas exagéré, là. C'était juste la radio du Rouge et Or. Tu sais, c'était pas ici dans le prolor.
Mais tu sais pas quoi faire là, dans ces cas-là. Là. En avez-vous déjà eu des grosses chicanes de voisins 88-971-1021? Mais c'est parce que tu veux pas appeler la police, pas alarmer le voisinage, puis que ce soit lourd, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux faire? Pour vrai, là, ouais. Moi, j'ai un débile de même à côté de chez nous. Là. Je déménage. J'ai peur.
Mais il y en a qui ont plus grand-chose à faire. Puis, ils se concentrent des fois à des petites chicanes de voisins. Ça les occupe. Hey, nous autres, on va aller en musique, les amis, mais juste avant, c'est 13 degrés sur Québec. Pour aujourd'hui, c'est nuageux avec un maximum de 17 degrés. Demain, mardi, c'est généralement ensoleillé. Maximum de 20. Mercredi, nuageux, maximum de 17. Jeudi, de la pluie, maximum de 16. Et vendredi, ce serait une alternance de soleil-nuage avec un maximum de 21 degrés. Vous avez des choses à nous dire sur le 88-971-1021. 88-971-1021, c'est par texto. Merci. Merci de le faire. Vous êtes nos yeux, nos oreilles.
Commence à y avoir un petit ralentissement sur la 20 direction ouest à la hauteur de Taniata. Sur Charest aussi, direction est entre Henri IV et Robert Bourassa. Quoi que ce soit, évidemment, ça se passe par texto.
Fortune Cookie Club, It's All sur les ondes de boulevard. C'est ce qu'on vous pousse à l'oreille. Oh boy, quelle belle fête de semaine. On a connu beaucoup de sports à Québec. Le Rouge et Or qui a encore une fois montré à quel point le Rouge et Or est dominant à grandeur du Canada. Ça n'a pas été facile pour Sherbrooke. Je pense qu'ils ont fait 3 points. Là. C'est quasiment une erreur. T'sais.
Le tailgate était vraiment le fun aussi en matinée. Tu vois que le monde est présent puis le monde trippe. Ouais.
29-2 le pointage
final. Je ne suis pas restée pour la game hier, fait que j'aurais pas pu te dire. C'est-tu à quelle heure les gens arrivent pour s'installer dans un tailgate, Marceau?
Il y en a qui arrivent vers 8-9 heures.
5h30.
Le matin, pour avoir leur place.
5h30,
hein?
Pour monter leur espèce de stand, puis avoir leur place, puis être sûr de pouvoir prendre une bière. Puis les gens arrivent franchement tôt, pour vrai.
C'est ça. Puis la game était à quelle heure, à peu près?
La game est à 13h.
13h, c'est pas super.
Non, mais c'est ça, c'est vraiment le fun. Les gens, mettons, arrivent, je te dirais, la majorité du monde qui n'ont pas de tente, puis qui viennent juste avoir du fun avant le match, là, aux alentours peut-être de 9h, 9h30. Nous autres, on a eu bien du fun hier. On était sur place avec les pogos, tout le kit, les cartes cadeaux Laurier. Les gens sont venus tirer le ballon. C'était vraiment le fun. Puis on reprend dimanche prochain.
Oui, 18 000 spectateurs qui étaient présents hier. Donc, ça a été une belle journée pour le Rouge et Or de l'Université Laval, qui est demeuré invaincu. Puis nous autres, comme Audrey vous le dit, à chaque semaine où il y a un match du Rouge et Or, bien, nous, on est là pour le tailgate. Donc, la semaine prochaine, on va affronter les Stingers de l'Université de Concordia. C'est au stade TELUS. Ça va être le 29 septembre à 13h. Et qui dit Rouge et Or, ben, dit tailgate. Et il y a des cartes cadeaux, des items à l'image de la station, pogo, des grignotines. Et cette année, ben, Laurier Québec va faire gagner une carte cadeau de 1 000 $ parmi les auditeurs qui sont passés voir Max ou Audrey hier puis qui reviendront dimanche prochain. Donc, vous devez noter l'indice du match qui va être donné au kiosque de Boulevard et être à l'écoute de nos émissions le jour suivant pour devenir finaliste. Donc, achetez vos billets sur rougeor.ulaval.ca. On se voit au tailgate.
Tu sais, Yann, que t'as des comptes à rendre. Yann. Tu sais, t'as des comptes à rendre à du monde, tu sais.
À qui? Pourquoi?
Bien, il y a à peu près 3 auditeurs hier qui sont venus à intervalle nous voir pour nous dire « Yann n'est pas là? » Et non, il n'est pas là. Il est occupé avec ses gars et sa famille. Là. Il est en fin de semaine, il n'est pas là.
Ouais, c'est,
mais là, il a dit qu'il serait là. Fait une couple de fois qu'il dit qu'il serait là puis il n'est pas là.
Ils ont raison.
Fait que là, j'ai dit, ben écoutez, je vais passer le message. Je te passe le message, tu as des comptes à rendre.
Oui, ils ont raison. C'est le hockey des gars qui prend énormément de place dans la vie d'un père de famille.
Puis vous recevez les horaires dernière minute aussi, hein?
Oui, tu sais, comme tu vois, là j'ai eu ce soir tantôt. Fait qu'on s'en va là ce soir.
Oh, Pelaye, à ce point-là. Ouais,
exact.
Hey, c'est mal fait, par exemple.
Ben, c'est des heures de glace qui sont disponibles, là, puis ça dépend de ton enfant dans quelle catégorie, puis y es-tu A, y es-tu
quel
B,
niveau?
Y es-tu C, y es-tu local?
Oui, hein? Ouais. Fait que tu peux pas nous promettre ta présence dimanche prochain?
Non, mais je vais être là.
Oui, c'est ça. À comprendre, entre parenthèses, vous me verrez pas en face. Mais il encourage! Il est là de loin, il encourage!
Exact, exact. OK, les Quickie News de Max. Oh boy, j'assiste déjà à une conversation assez particulière pendant la pause. J'ai pas glissé un mot dans cette conversation-là. Je vous dis, restez à l'écoute parce que dans les prochaines secondes, notre invitée qui est ici présente va probablement vous surprendre. Audrey, qu'est-ce qui fait en sorte que tu voulais parler avec une thanatologue, toi?
Curiosité morbide. C'est une bonne réponse.
Morbide.
Non, mais tu sais, il y a des affaires qu'on connaît pas parce que c'est pas tous les jours que tu rentres pas. Et, comment je te dirais ça? Tu sais, mettons que je me pose des questions sur le service à la clientèle dans une restauration rapide, bien, je le vois au quotidien parce que je peux aller commander chez McDo, tu comprends? Uh-huh. Mais si j'ai des questions sur la mort, le décès, comment ça se passe un coup qu'il y a un décès, quand t'es en bombe, tout, je peux pas aller m'installer, tu comprends, dans un salon funéraire puis observer un mort se faire maquiller puis arranger. Ça marche pas de même. Fait que c'est comme si on a juste des images de films, de séries, on a les mythes ou réalités qu'on entend au quotidien, mais c'est comme un univers qui est très, très mystérieux. Puis on a une auditrice qui nous a écrit il y a un bon moment déjà qu'elle faisait ça, elle est thanatologue, puis j'avais gardé son numéro, mais sans savoir son nom, sans rien. Je sais pas pourquoi, j'ai juste pris un numéro puis j'ai écrit à côté thanatologue. Fait qu'en fin de semaine, mais j'ai écrit à ce numéro-là.
Es-tu hey, thanatologue?
Est-ce que c'est bien toi qui es thanatologue? C'est quoi ton nom? Tu sais, j'avais vraiment aucun détail. Fait que finalement, on a jasé puis on l'a avec nous ce matin.
Ouais, je vais te poser une question. Est-ce que les thanatologues travaillent uniquement la nuit, dans le sous-sol, mettons?
Mais non, je pense que ça, c'est un gros mythe.
Est-ce qu'ils écoutent de la musique? Si oui, qu'est-ce qu'ils écoutent comme musique pendant qu'ils sont en train de préparer le mort?
C'est un peu bizarre, mais j'ai toujours imaginé de l'opéra. Je sais pas pourquoi dans ma tête, ça sonne comme grandiose.
Ah, on va en jaser. Elle est en studio avec nous, puis on est content qu'elle soit là. Son nom, c'est Marie-Pierre Charest-Godreau. Elle est thanatologue. Salut, Marie-Pierre.
Hey, bon matin.
Merci beaucoup d'être là. Je vais te poser la question. Je pense que c'est la seule fois que tu t'es fait poser cette question-là. Qu'est-ce qui t'a pris de devenir thanatologue? Ça vient d'où?
Ça vient de très, 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 très loin.
Ouais.
Oh, oui, écoute, je sais pas, quand j'ai eu une de mes arrière-grand-mères qui est décédée jadis, là, on va y aller comme ça.
Ouais.
Puis tu vois la personne dans son cercueil, parce que, tu sais, oui, tantôt, on va parler là, du avant et du après.
Ouais.
Mais c'est surtout, je dirais, la manière dont la personne est présentée. Hein, c'est la présentation, puis le fait qu'on fait comme revivre un peu la personne d'une certaine manière pour la porter comme dans un repos éternel. Fait que, tu sais, c'est là la curiosité où ce que t'arrives puis tu dis à la personne, ben, tu la vois puis tu fais comme, waouh, tu sais, elle a l'air bien, la personne, tu sais.
Paisible.
C'est paisible, tu sais, puis il n'y a pas de trait, là, suite au décès, tu sais, c'est vraiment, en tout cas, c'est tout ce côté-là qui fait que ça m'a comme piqué une curiosité.
Mais t'étais très jeune, t'avais quel âge?
J'avais à peu près 6-7 ans, hey, à l'âge de ma fille. Oh oui, tu sais, c'est
tôt,
là. Assez tôt, tu sais, c'est là que j'ai fait, OK, ouais, non, il y a quelque chose à faire avec ça.
Okay.
Mais tu sais, plus que j'ai évolué au fil du temps, au fil des années, puis là, plus que je me suis dit, ah, à ta peu, là, tu sais, on se rapproche vers quelque chose. C'est Marie-Pierre, c'est qui? Marie-Pierre, c'est quelqu'un qui est empathique, puis qui aime ça le monde, puis qui aime ça aider d'emblée. Ça, être embaumeur, c'est une forme de justement d'aide envers les familles. Fait que c'est.
La mort ne t'a jamais fait peur?
Pas du tout. Okay. Pas du tout, parce qu'on va passer par là anyway quand on va arriver.
C'est ce qu'ils disent.
Du comment, du pourquoi, je sais pas. Mais tu sais, non, ça me fait pas peur, vraiment. Là, écoute, moi, mes clients, mes défunts, ils sont tous beaux, puis je les aime tous.
Dans le fond, t'as jamais eu de plainte, là?
Pas ce que je cherche.
On dit que c'est tranquille à ce niveau-là.
Ben écoute, là, s'il faudrait que ça commence à jaser dans les bureaux, là, ça irait pas bien. Non,
mais c'est une drôle de question, puis on va faire le tour, mais est-ce que tu es seule avec ces gens-là décédés la majorité de ton temps?
Bien, là, c'est sûr que je vais quand même diviser le travail, parce qu'il faut ce que je cherche, et je suis encore présentement aux études pour terminer la formation de thanatopracteur. Parce que tu as le terme thanatologue,
ouais,
qui vient de thanatologie, qui est la science de la mort. Donc, moi, oui, j'ai une attestation d'études collégiales en thanatologie, qui est service conseil aux familles préarrangement funéraire. Donc, ça, c'est les personnes qui conseillent les familles, justement, sur les choix de rites funéraires, qui font les préarrangements, qui reçoivent la clientèle, tout ça. Mais depuis que je travaille à la coopérative des Deux-Rives, je suis brancardier. Moi, en fait, brancardière, mon travail, c'est d'aller chercher les défunts dans leur milieu de décès, que ce soit un hôpital, un CHSLD, un RPA, à domicile, à la morgue de Montréal ou à la morgue de Québec. Donc, tu sais, c'est
OK, mais ils ne sont pas nécessairement beaux encore quand toi, tu les récupères, là.
Non.
Y a-t-il des... Il doit avoir des affaires pas belles pendant tout le temps?
Ça peut arriver, certains là, de cas de suicide par balle ou des trucs comme ça. Là, on va les chercher, puis malheureusement, là, des fois, c'est la tête qui est à refaire. Là, si on arrive à faire de la thanatoplastie, en fait, c'est vraiment la reconstruction. Là. Je me suis pas rendue jusque-là là, au niveau des études, puis tout ça. Ça m'est pas arrivé encore, même en travaillant, là, mais oui, ça peut aller jusque-là. Je connais certains embaumeurs qui ont passé 12, 13, 14, 15 heures sur des défunts à reconstruire une boîte crânienne. Donc, mais tu sais, oui, non,
fait
les voix...
Fait qu'il y a rien d'irrécupérable, ça
ben,
peut...
on a un principe, nous autres, dans nos cours de physique puis dans nos cours de chimie qu'on suit, rien ne s'opère, rien ne se crée. Fait que tu sais, on réutilise tout, en fait, tu sais, puis on utilise la personne telle qu'elle, puis même une personne qui est autopsiée, que ses viscères sont à l'intérieur de lui dans des sacs de déchets biomédicaux, ça part avec lui, là. Oui, ils sont un peu à l'intérieur de lui, mais ça lui appartient. Donc, on fait partie de la grande chaîne que, tu sais, de la dignité humaine. Donc, ouais, oui, c'est sûr que ces morceaux-là vont rester avec lui jusqu'à la fin.
Est-ce que tu leur parles?
Je pensais pas dire ça à la radio un jour, là, mais oui, je leur parle.
Pourquoi?
Ben je sais pas, ça vient comme instinctivement, j'ai tout le temps besoin de...
En fait, on le fait tout, là, je veux dire, on va pas souvent un corps avec le cercueil ouvert, là, dans les funérailles, maintenant c'est souvent des urnes et tout ça, mais quand on a des funérailles où le tombeau, où le cercueil est ouvert, puis là, la personne a été préparée par vous autres, on a tous ce réflexe-là de lui parler dans notre tête. Je viens de voir, j'espère que t'es correct, écoutez, tu sais. On le fait tous, là. Faut pas être gêné de ça.
C'est vrai, non, mais c'est parce que, tu sais, oui, là, tu dis, on parle dans notre tête, mais moi, je leur parle pas dans ma tête, je leur parle à voix haute.
Ah, ça, c'est weird!
Fait que là, à quel point que des fois, je vais passer pour une méchante folle, là? Mais non, moi, j'aime ça, en fait, tu sais, quand je vais chercher des messieurs, des madames, j'aime tellement ça, leur caresser les cheveux. Puis, tu sais, de toute façon, dans ma réification, on a comme un protocole, nous, quand on va chercher les défunts, de valider qu'ils n'ont plus d'objets personnels, puis tout ça, parce que, tu sais, on les remet à la famille, surtout quand c'est des bijoux, puis tout ça.
Il faut que tu fasses le tour, anyway, t'as pas le choix de tapoter.
Oui, non, tu sais, on n'arrive pas juste avec le corps, on le met en salle réfrigérée, puis notre job s'arrête là. Tu sais, en tant que brancardier, on a un protocole, tout dépendant aussi des entreprises funéraires. Mais moi, j'ai un check-up à faire, excusez mon anglicisme, mais j'ai vraiment une vérification, puis une validation d'identité à faire. D'emblée aussi, aller vérifier justement tout ce qui est objet personnel. Les vêtements, est-ce que les vêtements sont souillés? Si les vêtements sont souillés, bien, malheureusement, on ne redonnera pas ça à la famille. Donc, souvent, des fois, comme dans des cas de traumatisme ou des choses comme ça, d'emblée, les vêtements sont déchirés par les paramédics. Donc, tu sais, ça, on va les déposer dans les déchets biomédicaux, on va les jeter tout simplement. Mais tu sais, quand des fois, les familles nous donnent les vêtements, parce que la personne s'en va justement en crémation, mais tu sais, la personne en crémation, elle s'en va pas tout nue, là, en fait. Là,
et ça, j'ai l'impression que c'est une vision qu'on a, que vous la déshabillez, puis mais c'est pas ça, là. Elle peut avoir un habit littéralement pour...
Ouais,
tu veux-tu arriver en haut à poêle, toi?
Ben non, mais en même temps, tu descends à poêle, c'est ce qu'ils disent dans la Bible, là. Il me semble que t'arrives tout nu sur la terre.
Oui, mais
là,
c'est moins gênant quand t'es bébé que quand t'es adulte.
Mais je suis très d'accord avec toi.
Mais non, tu sais, j'en reviens encore à dire qu'on parle de la dignité humaine, parce que l'article 1 du Code civil dit que tout humain a droit à respect puis à la dignité humaine. Donc, c'est un peu la la même chose pour nos défunts. C'est notre travail de garder cette dignité-là chez la personne. C'est notre travail, justement, de montrer qui elle était autrefois. Puis même si quelqu'un part à la crémation, ben lui aussi a le droit d'être en vêtements, puis d'être même, tu sais, c'est pas obligé d'être un complet veston-cravate ou une robe du dimanche soir, là. Mm-hmm. Ça peut être simplement, je sais pas, moi, grand-papa Bi, que ça faisait 10 ans qu'il était malade, puis qu'il aimait ça être en pyjama toute la journée parce qu'il était confortable là-dedans. Bon, mais pourquoi pas, ben tu sais? Oui.
Marie-Pierre Charret-Godreau, écoute, on a plein de questions à te poser, puis j'invite les auditeurs, si vous entendez notre thanatologue en ondes, puis vous avez des questions, contactez-nous au 418-971-1001, ça va se faire par texto. Qu'est-ce qui fait en sorte que au Canada, on ne peut pas prendre un défunt, puis tout simplement le mettre dans l'incinérateur pour recueillir les poussières, puis par la suite mettre ça dans une boîte? Qu'est-ce qui fait en sorte que ça doit automatiquement passer par vos mains?
Bien, nous, en fait, on travaille pour le ministère de la Santé et Santé publique, en fait. Donc, ouais. Nous, on doit, si on y va un peu plus complexe, un corps face au décès, suite à un décès, je veux pas être plate, mais c'est un déchet. C'est je veux pas peser mes mots là-dessus, là, mais c'est du biomédical. Tu sais, on a des enzymes dans le corps que, ça va travailler fort. On peut avoir une émanation de gaz aussi. La putréfaction va avancer. Fait que, tu sais, c'est des bactéries. C'est des multitudes de bactéries. Donc, nous, on doit protéger l'environnement et le public face à ça. Fait que, oui, selon la loi, en fait, on est régi par des lois. On doit absolument au moins avoir une toilette, une dernière toilette pour le défunt. Okay. Donc, on appelle ça dans le jargon une asepsie. Donc là, on va avoir une désinfectation du corps si on ne se rend pas nécessairement à l'embaumement avec une exposition, etc., là, mais même à la crémation aussi. Puis honnêtement, vous, votre père ou votre mère, est-ce que vous aimeriez le savoir partir, pas désinfecté? Mettons, il est dans un CHSLD, là, il a la couche aux fesses, la couche n'est pas changée. Puis nous autres, on s'en va le chercher, puis il est comme ça, la bouche tout croche, puis whatever, tu sais.
Un très bon point.
On parlait de respect tout à l'heure, c'est ça. Le respect, dans le fond, nous, il va passer dans nos mains pour une fermeture de bouche, une asepsie, la dernière toilette, comme on disait, la désinfectation, après ça, l'habiller propre, enlever la couche, justement, nettoyer les orifices. On a vraiment une procédure à faire, justement, pour la conservation, là, minimiser au moins les bactéries sous le corps, là, après le décès.
Deux affaires. Tantôt, Yann a parlé du fait, puis c'est vrai, là, on dirait que quand tu vas dans des funérailles aujourd'hui, c'est comme si la crémation a l'air plus populaire maintenant que l'exposition. Est-ce que ça, vous l'observez dans le day-to-day? Ou non, c'est pas vrai, il y a encore beaucoup d'expositions?
Bien, effectivement, aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui sont... qui choisissent la crémation pour diverses raisons, mais on a encore aussi... Il ne faut pas banaliser qu'on a à peu près encore 20 % là, de la clientèle là, qui choisissent des embaumements, tout ça, pour la simple raison que si je vais avec des familles qui prennent des crémations, c'est parce que d'emblée, si on poursuit la génération où on est aujourd'hui, on parle des familles qui sont peu nombreuses. Mm-hmm. C'est pas comme dans le temps de nos grands-parents, ou ce que ça avait 10, 15 frères et sœurs, puis tu sais, nous autres, moi j'ai deux sœurs, puis après ça, on est comme pas mal maximum dans la famille. Fait que tu sais, on fera pas un gros party après, puis ça nous pas de croûte, tu sais, paraît que ma tante Ginette a été embaumée quand la famille est très, très restreinte. Les gens vont se dire, tu sais, voyons, il y a plus personne dans la famille, fait que tu sais, pourquoi qu'on ferait pas ça en bonne franquette, tu sais, une petite cérémonie, tu sais, liturgie de la parole, puis tout ça. Puis ça dépend encore des croyances des gens aussi au fil des années, tu sais.
J'imagine que ça coûte plus cher embaumer quelqu'un que de le faire brûler, c'est épouvantable, que de le
crématiser.
Cramer, c'est pas mieux, crématiser. J'imagine que ça coûte plus cher de faire embaumer quelqu'un.
Bien, c'est sûr qu'il y a des frais reliés à ça, là, parce que, tu sais, il y a le salaire du thanatopracteur, il y a les produits qu'on utilise aussi, tu sais, les liquides d'injection, tout ça, ça a un certain coût. Mais, tu sais, on y va quand même avec le budget de la personne, puis, tu sais, on y va quand même, tout dépendant aussi, est-ce qu'ils ont des préarrangements, puis, tu sais, ça aussi, c'est une autre tangente aussi. Là, les préarrangements funéraires, là, c'est encore très, très présent là, aujourd'hui. Mais non, c'est sûr qu'il y a des frais un petit peu plus élevés pour un embaumement, effectivement.
Il y a un texto qui entre, puis je trouve que c'est une bonne question. T'sais, je ne sais pas si tu as un ou une partenaire de vie, mais la personne nous demande, est-ce qu'elle parle de son travail à son partenaire ou sa partenaire, du genre, tu sais pas ce que j'ai vu aujourd'hui, tu sais?
Bien, c'est sûr qu'on a quand même un contexte de de la protection là, des informations là, par rapport à la clientèle qui se retrouve entre nos mains, qui pourrait être facilement identifiable dans telle ou telle situation. C'est sûr que, oui, mon conjoint, je vais hyperventiler sur quelque chose que j'ai vécu, soit que je suis allée chercher un enfant ou un bébé ou un fœtus ou des choses comme ça qui est venu plus me chercher que d'autres choses. Mais, tu sais, des fois, c'est juste comme lui raconter ma journée sans vraiment nommer de détails. T'sais. Moi, j'y vais surtout avec le terme monsieur, madame, mais tu sais, je vais essayer de maximiser mes dires sur des détails qui pourraient influencer telle chose, parce qu'on est quand même restreint sur le professionnalisme. Mais oui, c'est sûr que mon partenaire de vie va en savoir plus un peu que mon entourage, là, justement pour une question là, de respect et tout. Là.
T'as-tu joué à la chienne?
Ben, ça dépend à quel contexte, okay. La chienne. Si je travaille de soir, peut-être.
Je vais te raconter une histoire. Ça s'est réellement passé. C'était sur Saint-Vallier, au centre-ville de Québec. Puis, ça s'appelle l'épine et cloutier. Puis, il y a comment tu as appelé ça tantôt, les gens qui transportent
les brancardiers ou les transporteurs.
Bon, il y avait des brancardiers et des transporteurs. Puis là, il y avait un nouveau qui était à l'essai cette journée-là. Ça se passait soit un samedi ou un dimanche. Puis, on lui a demandé d'aller chercher une personne à l'endroit où c'est réfrigéré. Puis lui est allé, puis quand il est allé chercher la personne, il l'a tassé, puis il y a du vent qui est sorti. Fait que par la bouche, ça a comme fait un genre de... Puis lui, le monsieur, ça l'a complètement gelé, puis il a dit, moi, ce métier-là n'est pas pour moi, je quitte. Ça, est-ce qu'il vous avertisse avant que ça se peut que ça arrive, tu sais, que le corps, eh bien, veut pas, s'il y a de l'air encore, ça se peut qu'elle se libère?
Bien, effectivement, c'est un phénomène qui est tout à fait normal, surtout dans un cas, exemple, un domicile qu'on va chercher, le corps est décédé avant les 6 dernières heures. Là, souvent, quand on va dans les domiciles, c'est pronto, on y va assez rapidement.
Ouais.
Oui, encore de l'air dans les poumons, ça l'arrive. Moi, ça m'est arrivé très souvent. Mais j'ai déjà vu des policiers aussi. On va faire un petit clin d'œil à la police de Lévis, là, quand on a fait un domicile, qu'il y en a un qui a eu vraiment la chienne quand il y a eu cet effet-là. Mais bref, non, ça ne m'a jamais... non, parce que d'emblée, comme je disais tout à l'heure...
Quand tu le sais.
C'est ça. Quand tu le sais, puis les cours aussi qui des cours anatomiques qui nous fait comprendre que c'est un processus tout à fait normal là, du corps humain. Là.
C'est ça que je trouve fascinant, c'est que je me rends compte que c'est un peu plus médical, entre guillemets, que je pensais. Est-ce qu'il y a des pathologies qui changent un peu votre travail? T'sais, mettons, je ne sais pas, monsieur, madame a une maladie certaine, ou est-ce que ça peut venir changer au décès dans votre façon de travailler?
Oui, absolument. Je donne un exemple. Quelqu'un qui a une jaunisse lors du décès, dans les produits d'embaumement qu'on va utiliser, bon, il n'ira pas utiliser un produit à base de formaldéhyde parce qu'au contact d'une certaine toxine, d'un certain produit dans le liquide d'embaumement et le jaune, de la jaunisse, en fait, là, j'ai plus le terme médical dans ma tête, là, désolée, mais ça, à ce contact-là, là, sans joke, ça vient vert comme mes cheveux.
Arrête!
Ben oui,
fait
oui,
que ton
oui.
mort, il est vert.
Ah oui, il vient vert. Fait que tu sais, là, on utilise un autre traitement là, pour contrer à la jaunisse, là, pour injecter un liquide de préservation. Là. Mais tu sais, les gens sclérosés, là, on va avoir de la difficulté à embaumer parce qu'il va y avoir des caillots ou les artères vont être sclérosées qui vont être vraiment difficiles à les soulever ou à l'injecter là, pour que le liquide d'embaumement soit le plus diffusé possible dans tout le corps.
Ouais. Hein. Ça vous prend-tu une photo du défunt?
Oui.
Okay.
Oui, parce que évidemment après qu'on ait fait le traitement avec le liquide de préservation, ben nous on l'a vu dans son pire état. Mais tu sais, on veut l'amener à l'état où il était. Donc tu sais, on demande une photo récente là, de pas plus que des mois par exemple. Là. C'est sûr si la famille nous arrive avec une photo là que là 10 ans, là, on va essayer d'y aller là, mais
ça se peut que ça ressemble
pas. On aime
ça,
le plus récent possible effectivement. Là. Fait que c'est pour vraiment que la personne soit telle quelle. Avant le décès. T'sais, c'est vraiment cette image-là qu'on veut projeter.
Je ne sais pas si je peux te demander ça, mais c'est quoi vos trucs quotidiens? T'sais, on entend souvent la colle. T'sais, vous collez genre les yeux, la bouche, les mains. Je ne sais même pas si c'est vrai, là, mais j'ai entendu ça souvent, t'sais, que les morts sont collés pour être sûr qu'ils ne bougent pas dans le cercueil et que tout soit correct. C'est quoi, mettons, les petits tips comme ça au quotidien que vous utilisez pour qu'ils soient bien présentés devant nous autres?
Bien, c'est sûr que les membres supérieurs, les membres inférieurs ne bougeront pas d'emblée. Là. Ça, c'est certain, parce qu'avec la gravité et les liquide d'injection, là, ça ne bougera pas. Là. Ça, soyez sans crainte, là, vous ne verrez pas un défunt là, steppé dans son cercueil. Là. Mais c'est sûr qu'au niveau des paupières, au niveau des lèvres, ben, d'emblée, quand on décède, là, on, tout a tendance à ouvrir, là, à moins que la personne, on lui ferme les yeux tout de suite après le décès là, pour essayer de contrer là, la gravité. Mais non, oui, on utilise un petit peu de colle au niveau des paupières pour vraiment venir fermer les paupières pour qu'elles restent là, vraiment le plus étanches possible. La bouche, en fait, on utilise la colle, oui, mais on a une pratique, en fait, qu'on appelle le contour mandibulaire. Donc, le contour mandibulaire, en fait, on utilise un fil et une aiguille. Donc, on vient vraiment, là, au niveau de la fente labiale, on descend l'aiguille serpentine au niveau du pli mentonnier, on repasse à l'intérieur, on vient faire une boucle, on passe... Il faudrait quasiment que je fasse un schéma, là, mais tu sais, on vient non, vraiment, là, effectivement, on vient vraiment passer vers la mandibule, à l'arrière de la mandibule. Ensuite, on repasse l'aiguille serpentine vers le haut du nez. On traverse le septum, on redescend pour que par la suite, on puisse venir vraiment serrer le fil et faire une boucle pour que la bouche reste le plus serrée possible. Et oui, à la fin de l'embaumement, avant qu'on applique le maquillage, on va venir vraiment sceller la bouche avec de la colle c'est tout près de l'exposition là, pour que ça soit le plus étanche possible.
Est-ce que
puis
les
en même temps, c'est une protection. Non, les mains, c'est pas collé. Le main, on peut utiliser plusieurs techniques. On a le paume-main, en fait, comme on appelle. Là, c'est qu'on passe une aiguille serpentine à l'intérieur de la main, puis on vient comme faire une boucle, puis on vient rattacher la main de cette façon-là pour que justement le fil passe dans la peau, que ça soit plus solide. On veut de la solidité, hein, parce que tu sais, quand on a un défunt qui est en exposition, ben d'emblée, on le sait que les gens ben, vont vouloir toucher cette personne-là. Fait que tu sais, on voudrait pas que tu sais, si on colle, qu'il arrive quelque chose, exemple, puis que ça lâche, là. Fait que tu sais, on voudrait vraiment utiliser cette technique-là. Mais il y a un élastique qu'on peut appuyer sur les pouces, puis qu'on vient rentrer les pouces comme ça, puis on, tu sais, après ça, on place les mains.
Oh,
ouais. Okay. Ouais. Fait que tu sais, il y a des techniques, là, de cette manière-là.
C'est vraiment morbide, là, mais est-ce que la texture de la peau change?
Oui.
Oui?
Bien, c'est... Oui, bien, oui puis non. Là, c'est comme une question en double sens. T'sais, on va avoir des gens qui vont décéder très jeunes, qui vont avoir encore la même texture de peau. Mais tu sais, quand on parle d'une personne âgée de 90 ans, par exemple, qui a une délamination de la peau, là, c'est sûr qu'on a une fragilité au niveau de la peau. Ça sera pas la même chose. Mais tu sais... Y a pas... Là, tu parlais plus du toucher, Audrey? Ou
Oui, mais je sais pas. On dirait que vous manipulez, veux pas, les personnes décédées. Puis on dirait que je sais pas. Je me demandais si c'est la même affaire que quand tu touches à quelqu'un dans ton entourage. Qui est pas, j'imagine que c'est plus chaud, là?
Non, c'est sûr que tu vas avoir... il va avoir de la lividité cadavérique. Oui, tu vas avoir de la froideur. Mais c'est sûr que la texture de peau, comme une personne qui est vivante, t'sais, notre peau, on la pince, elle revient. Mais un défunt va souffrir de déshydratation la plupart du temps. Tout dépendant des contextes, mais oui, tu sais, quand on va peser, la texture, elle n'est pas pareille, là, d'une certaine manière.
Avez-vous déjà eu des demandes bizarres, genre, moi, je préfère être couché sur le côté dans mon cercueil, non?
Ça ne m'est pas arrivé.
Non.
Puis mes collègues au travail, je pense pas non plus okay. que ça soit arrivé.
Parce qu'aux États-Unis...
c'est la mode.
Ben je ne sais pas si c'est la mode, là, mais moi, j'ai vu des...
Arrête, il y a du monde pas couché normalement?
J'ai vu des trucs qui n'étaient pas piqués des verres, là. Donc, le gars, c'est un fan d'Harley Davidson. Mm. Et il a décidé, lui, que son cercueil, ça allait être son Harley Davidson. Donc,
non.
Il est organisé, assis sur son Harley Davidson. Sa moto. Un genre d'empaillement, là. Je veux dire, ce genre de choses-là ne se fait pas au Québec?
Ben, c'est sûr qu'on est ouvert à toute demande, mais tu sais, dans la mesure du possible ou ce que c'est digne pour la personne, tu sais, je veux dire...
Ouais, mais c'est à sa demande.
Je peux comprendre. Moi, personnellement, je trouve ça un petit peu éveillé, là, tu sais. Je sais que
t'es avec monsieur... Moi, j'aimerais ça être enterré avec mon Harley Davidson.
Mais tu peux-tu garder quelqu'un d'empoigné dans ton salon, genre, ou c'est illégal?
Ben non, parce que...
Je commence à craindre pour petit chum, là.
Non, mais là, j'ai tellement de questions, là, on n'aura pas assez
mais
de temps.
Mais non, c'est... Non, la personne, suite au décès, doit être inhumée ou crématisée.
Il doit avoir
Oui, définitivement. Là, on est à une finalité de la vie, là, donc on doit disposer du corps là, légalement.
Il y a une question qui rentre par texto qui est aussi morbide, mais c'en est une bonne. Quand vous remplacez le sang par le liquide de préservation, où va le sang?
Là, il faut que je dise des punchs, mais il n'y a pas de tabou, en fait. Le sang s'en va dans les égouts.
Oui. Oui. Ça, je savais.
Ah oui, hein?
Mm-hmm.
Ah, je suis comme pas bonne.
Tu veux qu'ils mettent ça à quel endroit?
Je sais pas. qui flambe ça, qui je sais pas.
Ben c'est sûr que oui, on va avoir des déchets biomédicaux, là, tu sais, je veux dire, mais le sang, on est régi par des lois, on a un système de ventilation, on est équipé justement pour la protection, tout ça, mais le sang, oui, s'en va dans les égouts et après ça, il est refiltré... Et bu.
C'est intéressant.
Ouais, mais en tout cas, on a assez des produits forts là, pour contrer
ou battre tout ça. C'est vraiment intéressant.
Mais quoi, tu boiras plus de l'eau de la Champlain? Quoi?
Mais non, mais tu sais, quand tu penses juste pas à ça, j'avais jamais réfléchi à ça.
C'est quoi, comme, c'est quoi la différence entre un embaumeur et un thanatologue?
Il n'y a pas une grande différence, en fait. Un thanatologue, c'est la personne qui a étudié la science de la mort, un peu la même chose qu'un thanatopracteur. C'est juste que la différence, c'est un permis d'embaumement qu'on a là, à la suite là, de l'obtention là, du DEC en thanatopraxie. Donc, ce que je suis en train de faire présentement. Mais sinon, thanatologue, c'est les gens qui peuvent recevoir la famille, en fait, les conseillers. Ça peut être des brancardiers, ça peut être... Il y a un éventail, là... de gens du domaine là, qui peuvent avoir une formation académique là, qu'on appelle une attestation d'études collégiales là, en service conseil famille ou préarrangement funéraire. Là. Mais il y en a encore là, qui apprennent ça un peu sur le tas, là, comme on dit.
Tu sais, maintenant, quand tu veux devenir policier, là, ils te font faire des tests physiques, puis tu as comme des prérequis, on dirait, là, pour, ouais. Pour faire ce métier-là. Y a-t-il des prérequis pour être thanatologue, embaumeur, peu importe, pour faire ce type de métier-là?
Oui. Avant la formation académique là, que je suis en train de terminer, d'emblée, on demande au moins à avoir... ça fait longtemps, moi, que j'ai lâché l'école là, avec mon âge puis tout ça, là, mais en fait, il faut avoir des mathématiques fortes puis des sciences fortes parce que d'emblée, on joue sur le chimique du corps, la biologie, etc., mais on joue aussi avec des produits chimiques. Donc, il faut au moins savoir, exemple, là, la formule qu'on utilise le plus souvent au travail, c'est C1V1 est égal à C2V2, parce qu'on veut savoir la concentration finale d'un corps versus son poids, etc., ou le nombre de volumes qu'on a à insérer à l'intérieur de la dépouille. Là. Donc, mm-hmm. c'est des petites formules là, qu'on a besoin d'aller chercher là, en chimie.
Le profil type psychologique des étudiants en thanatologie, ça peut être quoi?
Oh mon Dieu, là, si je dis ça de mes confrères et de mes consœurs, ils m'aimeront pas.
Ben, je pense qu'ils t'écoutent. Ils ont dit que tu étais la meilleure thanatologue.
C'est vrai, on a des textos.
Ils sont trop fins. Ben, je pense qu'on est tous fous. En tout cas, je dis... Mais je dis ça en riant. Puis, tu sais, je pense à eux autres en ce moment qui m'écoutent parce que je leur ai dit d'emblée dans ma cohorte là, que je venais ici ce matin. Mais non, je pense qu'il faut tout être un peu... Pas creepy, mais il faut tout avoir un petit quelque chose... Autant en relation humaine, autant en relation d'aide, autant un petit peu d'aimer des choses qui sont hors normes. Là. Tu sais, si je regarde mes consœurs, mes confrères de classe, on a toute une similarité là, au niveau intellectuellement parlant. Là. Tu sais, on est tous des gens qu'on est proche de l'humain, on est proche des autres à notre certaine façon. D'un, on est tous des fous des chats. Là. On est plusieurs gangs dans notre chat. Parce que je ne sais pas si c'est un prérequis de Thanato pour avoir plein de chats. Là. Mais en tout cas, bref, non, on a tous... Je sais pas, je pense qu'on se rejoint tous d'une certaine manière. Puis c'est ce qui fait notre charme, je crois. Là. Mais en fait, tu sais, on ne peut pas banaliser un croque-mort comme on appelait dans le temps. Là. En fait, on est des bons vivants. Là. On aime ça rire, on aime ça être parmi le monde.
Mais est-ce que vous êtes très terre-à-terre ou un peu spirituel, ésotérique?
Oh
parce
boy.
Que je ne sais pas s'il faut que tu sois justement très réaliste pour la vie, la mort, puis si c'est un corps,
oui.
Ou s'il faut que tu sois un peu spirituel, tu sais.
Ben, je pense pas que c'est des... C'est... Oui, tu sais, on a certains... En tout cas, moi, d'emblée, oui, je suis plus la personne qui va essayer d'analyser la situation pour trouver une solution. Mais j'ai quand même comme la moitié de mon cerveau là, qui croit là, comme à la vie après la mort. Là,
okay.
Tout ça, tu sais, qui a vécu des expériences aussi paranormales là, au travail ou peu importe. Mais je pense pas que tous mes confrères ou mes consœurs du métier ou étudiants, on a toute cette mentalité-là, au moins du travail bien fait, de la minutie aussi. Fait qu'on vient tous se rejoindre là-dedans parce que, tu sais, travailler sur une dépouille pendant un certain nombre de temps, utiliser les outils qu'on a, parce que, tu sais, c'est des outils chirurgicaux, là. Puis il faut quand même être très, très minutieux là, lorsqu'on soulève un artère, parce que, tu sais, si on a une artère justement qui est sclérosée, ben tu sais, il faut y aller tranquillement, pas vite, parce que sinon, si on va trop vite et qu'on va trop brusque, mais ça pourrait arriver que notre artère se sectionne. Là, on fait quoi rendu là? On est dans une piscine de sang, là, tu sais, carrément, là. Fait que, tu sais, on est tous... En tout cas, je pense que s'ils m'entendent, ils diraient oui, j'ai raison. On a toute la minutie, on a toute la patience, on a toute... beaucoup d'entre gens, puis tout ça, beaucoup d'empathie aussi. Fait que c'est les caractéristiques d'un thanatologue d'emblée là, qu'on retrouve.
Tu parlais d'expérience paranormale. Y en a-tu qui t'ont déjà confié à en avoir eu? Parce que moi, j'ai reçu un gars qui a écrit quelques livres. Je pense qu'on avait nommé les livres en ondes, toi et moi. Il a été thanatologue pendant plusieurs années. Je pense que c'est le croque-mort. Je pense que c'est comme ça qu'il s'appelait dans ses livres-là. Puis il mentionnait qu'à un moment donné, il y avait plusieurs choses qui lui sont arrivées dans sa carrière, là, puis qu'il n'était pas capable de s'expliquer. Peut-être qu'un scientifique là, qui ferait des études énormes sur les faits qui nous amenaient dans ses livres aurait dit « Ah, ben c'est peut-être telle affaire », mais dans sa tête à lui, il n'était pas capable d'expliquer ce qui se passait. Est-ce que dans tes collègues, il y en a qui t'ont rapporté avoir vécu ce type de choses-là?
Non, je pense qu'on n'a pas eu le temps de se poser la question, mais moi, au travail, oui, avec plusieurs collègues de travail, en travaillant de soir, on a des moments où c'est un peu spécial. Là. Ça m'est déjà arrivé une fois, parce que quand on travaille de soir, c'est de 15h à 23h, puis je me souviens une fois, on était assis sur le banc, puis tu sais, on est comme on call, là, on attend justement s'il n'y a pas quelque chose qui va arriver. Puis, à un moment donné, j'étais en train de parler à mon collègue, puis on entend une porte de char qui ferme. Mais c'est une porte de char qui ferme à 11h le soir. Voyons, c'est quoi cette histoire-là? Il n'y a personne dans la bâtisse à part nous autres, là, tu sais. Mm-hmm. Mais on s'en va dans le garage pour voir, mais les fourgons, toutes les portes étaient fermées, tout était fermé, fait qu'on comprend pas, pantoute, c'est quoi qui s'est passé, tu sais.
Fait qu'il y a des petits mouvements de
même.
Mais
c'est ça, mais tu sais, les portes de l'auto étaient toutes fermées. Fait que pourquoi que là, ça a ouvert puis ça a fermé, je sais pas. Mais moi, je sais que mon collègue, il est venu blanc comme un drap.
Oh, ouais!
Il avait hâte de s'en aller. Dis-moi, là, je resterai pas ici une minute de plus.
C'est dommage comique.
Et peut-être un peu plus alerte sur les signes. Là. Tu t'installes un billet dans ta tête, là. Tu sais, comme t'es dans un endroit qui est quand même assez climatisé, fait 23 degrés. Tout d'un coup, t'as un coup de vent extrêmement froid.
Ouais.
Tu sais pas d'où ça sort. Là, toi, ta première impression, c'est oh, on m'envoie-tu un message,
et tu
là,
travailles t'sais. Avec les morts, j'imagine, c'est sûr, tu as cette façon-là
liens,
qui
ben
oui.
Ben
oui,
ouais,
inévitablement.
J'imagine, non, en tout cas.
Comment le métier a évolué? Je vais dire de croque-mort à ce que c'est aujourd'hui. Y a-t-il des choses flagrantes qui ont changé avec le temps dans votre pratique?
Oui. Ben, on a une tangente, plus comme on parlait tout à l'heure là, au niveau de la crémation. On a encore un certain 20% de la population qui vont aller avec les embaumements et les rituels funéraires. C'est un peu comme dans le temps de nos grands-parents, mm-hmm. où ce qu'on les veillait dans le temps, là, dans le salon, etc. T'sais, là, c'est sûr, on n'en aura plus de ça aujourd'hui. On parlait tantôt, justement, des familles qui sont peu nombreuses, fait qu'on va vers la crémation. Puis les choses qui sont un petit peu plus simples... Donc, ça serait de ce côté-là. T'sais, on suit vraiment on suit vraiment le côté contemporain, surtout au niveau des générations, qui est complètement différent. Nos familles sont peu nombreuses. Donc, les gens ne croient plus nécessairement aussi avec la religion. Donc, oui, il y a ça qui fait en sorte qu'il y a une grosse différence dans nos pratiques. Mais il y a aussi où on a remarqué que la pandémie est venue comme rajouter quelque chose aussi. Puis je m'explique là-dessus, c'est qu'on a remarqué que, parce que effectivement, suite à la COVID-19, c'est devenu comme une maladie à déclaration obligatoire, comme on appelle nous autres dans le jargon l'AMADO, en fait. Donc ça, c'est certains types de pathologies ou en fait de maladies qu'on doit déclarer au ministère de la Santé et Sécurité publique, justement pour prévenir un taux je perds mes mots.
pour les gens
la contagion,
ou la
en fait.
Contagion,
ouais, la contagion, okay. Effectivement. Donc, c'est sûr que, par exemple, quelqu'un qui a la peste ou le choléra ou des choses comme ça, tu sais, on n'aura pas nécessairement le droit de pratiquer sur cette personne-là. La COVID en faisait partie au début. Là, quand ils ont un peu plus compris c'était quoi la COVID, là, ils ont moins resserré l'étau là, sur cette maladie-là. On a encore quand même des restrictions à prendre, évidemment, vu que c'est volatile aussi comme maladie. Mais on a remarqué que les gens... c'était une crémation directe dans ce temps-là quand les gens décédaient de la COVID. Donc, les familles n'avaient pas nécessairement le temps de voir le défunt.
Oh, mon Dieu.
Donc, on a remarqué une petite tangente là, à revenir un peu dans les rituels funéraires avec une exposition du corps. On parle pas là, de veiller comme pendant 2 jours de temps. Là. Mais tu sais, on parle d'une petite exposition de corps. Ensuite, on parle vraiment d'aller à l'église avec le corps, ensuite de revenir pour ensuite que le corps parte à la crémation. Ça peut être un enterrement aussi avec... il y a plein de facteurs.
Il y en a qui font les deux.
Ils font les deux. Ou sinon, ça peut être vraiment... une exposition, ça peut être ensuite là, vraiment le cortège funèbre là, avec les véhicules de direction, le corbillard, etc. Puis on s'en va porter la personne soit en crypte ou dans une fosse là, au cimetière. Là. Fait qu'on en a encore de tout ça.
La technologie a-tu changé quelque chose aussi dans votre pratique?
Oui.
Ou...
Oui? Oui, mais surtout nous, les brancardiers. Je ne sais pas, en fait, si ça vous dit quelque chose, un SP3?
Non.
C'est la déclaration de décès, en fait. Donc, nous, on a ce papier-là qui nous autorise à transporter le corps.
T'as plus besoin du mort de l'orteil, là.
Non, c'est pas cette date, ça.
Mais ça m'écœure.
Surtout quand on les orteils un petit peu jaunes. Non. Mais en fait, ce papier-là qui nous autorise à effectuer le transport, on a toutes les causes de décès qui sont dessus. Puis en fait, c'est ce qui dirige les thanatopracteurs justement sur quel type de liquide d'injection qu'on veut utiliser là, pour ce corps-là. Mais ce papier-là, en fait, il nous autorise le transport, oui, mais tu sais, c'est mais dans le temps, je dis dans le temps, mon Dieu, ça date de pas si longtemps que ça, finalement. J'ai l'impression d'être vieille quand je dis ça, tu sais. Mais j'ai vu l'entre-deux, moi, en fait, parce qu'on avait le SP3 formule papier, tu sais, copie carbone, trois couleurs, là, ouais. La jaune, la verte, la rose puis la blanche. Ben, ça, le médecin, il devait signer cette feuille-là puis nous donner des copies pour transporter le défunt. Mais là, maintenant, avec la technologie, on est sur le CIED, que ça s'appelle, qui est le système d'information échographique de je sais pas quoi, de Québec, en tout cas, peu importe. Là. Mais ça, c'est communément appelé le SP3, en fait. À cette heure, c'est tout informatisé. Fait qu'on peut
c'est plus simple pour vous.
C'est plus simple pour nous parce qu'on peut se promener justement avec une tablette, un cellulaire, on a la copie du SP3, on arrive sur notre lieu de décès, on monte cette copie-là, acquis de droit, avant de quitter avec le corps, puis...
OK. Hey, j'ai des textos qui sont rentrés. Il y en a qui sont particuliers, là. Je vais les garder pour la fin. Salutations, quand t'as dit, Marie-Pierre, que les thanatologues étaient tous un peu fous, effectivement, mon père était thanatologue aussi. On est effectivement spécial. Quand j'étais jeune, je jouais à embaumer ma sœur.
J'adore!
Ah, c'est bon, ça! Il y a un autre auditeur qui demande, c'est quoi le temps moyen pour arranger un corps?
Arranger dans quel sens? On calcule, mettons, la coiffure, le maquillage, l'embaumement, on peut passer entre 1h15, 1h30, 2h.
OK.
Mettons.
Par personne.
Ouais.
Est-ce vrai que les corps se conservent mieux quand les gens sont mis dans des mausolées?
Ben, les mausolées, des cryptes ou peu importe, mais en fait, si on regarde un mausolée avec un colobarium, la personne, c'est ses cendres qui s'y retrouvent dans un mausolée. Où on a des cryptes, en fait, c'est que les gens vont complètement... ça va se momifier à long terme.
Okay.
Donc, la conservation, oui, il va avoir... tu sais, c'est pas une conservation définitive qu'on fait sur un corps. Hein, c'est juste pour ralentir la putréfaction là, chez une dépouille. Mais tu sais, ça sera pas comme... Ça sera pas comme des thanatopraxies définitives comme Lénine à Moscou, que lui, ben, à chaque année, il y a sa petite équipe de thanatopracteurs qui vient refaire des soins dessus pour le garder vitam aeternam. Là,
c'est vrai?
Oh oui, vous marquerez ça sur Google, là, Lénine là, en Balmain. Puis lui, à chaque année, il y a son équipe d'embaumeurs qui va prendre soin de lui, qui va le conserver. Mais nous, on va pas jusqu'à là. On essaye d'irradier le plus de bactéries qu'on peut, le prolonger tout dépendant du temps d'exposition de la personne.
Ouais.
Mais tu sais, sinon, quelqu'un qui est dans une crypte va finir par se dessécher puis se momifier, en fait.
OK. Autre question. Si jamais un jour, il y a quelqu'un, un ami ou encore un membre de ta famille qui décède, est-ce que tu lèverais la main pour t'occuper de cette personne-là?
Oui. Ben pas plus tard qu'en février dernier, mon beau-père est décédé. Donc, il tenait mordicus à ce que ça soit moi qui s'occupe de
c'est
lui.
C'est vrai? Ah oui?
Comment t'as vécu ça?
C'est difficile. Je le cacherai pas, c'est difficile. Même encore, on dirait que ma période de deuil, je l'ai pas encore terminée. Fait que c'est toujours une petite corde sensible quand je viens pour parler de lui, là. Mais non, ça a été rough. Puis surtout que j'ai eu tellement comme d'amour de mes collègues. Je donne un exemple, c'est moi qui ai fait le transport, même encore plus poussé que ça. Suite à son décès, j'ai eu le privilège de l'emballer dans un linceul avec l'infirmière et de le descendre avec le brancardier à la morgue. Avant, le lendemain, de m'habiller en croque-mort puis de venir le chercher là, à l'hôpital où ce qui est décédé, l'enfant Jésus, ici à Québec, et de l'amener dans nos locaux. Quand on est arrivé, mon collègue et moi, j'ai carrément eu une aide d'honneur de mes collègues quand on est arrivé dans le garage. Puis après ça, j'ai mes deux collègues thanatopractrices qui m'ont entendu pour qu'on l'amène là, dans le laboratoire là, puis pour faire son asepsie. Là.
Est-ce que tu le referais?
Ben oui, je le referais parce que je pense que ça fait partie... En tout cas, pour moi, ça a fait partie d'un peu de mon deuil, tu sais, de l'avoir fait moi-même. Pas que j'aurais pas fait confiance en mes consœurs de travail, absolument pas. Je l'aurais laissé sans problème, même quand je suis venue pour le recoudre parce que mon beau-père avait un stimulateur cardiaque, puis on peut pas envoyer un corps au crématorium avec un pacemaker. Quand je suis arrivée pour faire sa suture, je me suis rendue à la moitié, puis j'étais plus capable de le faire. J'étais littéralement figée. Puis j'ai regardé ma collègue, puis j'ai dit, est-ce que tu peux poursuivre? Parce que je suis comme plus capable. Je pleurais tellement, j'avais les yeux bouffis, je voyais rien de ce que je faisais. Fait que, tu sais, tant qu'à me sentir comme si je faisais mal ou commencer à m'envoyer dans un espèce de mindset que, coudonc, tu sais, je suis juste plus capable de le faire. Fait que j'ai juste arrêté de donner mon aiguille serpentine, puis elle a terminé. Mais oui, je crois qu'un membre de ma famille, que ce soit ma mère ou mon père, j'aurais. Tendance à le faire dans la limite que je suis capable, mais tu sais, j'aurais pas honte de dire ben à mes collègues, pouvez-vous nous m'aider? Je suis plus capable. Ouais.
Un stimulateur cardiaque, tu ne peux pas envoyer ça à la crémation?
Non.
Y a-tu d'autres choses? Exemple, tu sais, bon, y en a de moins en moins, mais il reste encore une génération qui a des dentiers. Ça, tu t'envoies-tu ça là aussi?
Oui, les dentiers, ça ne change rien. Okay. Là, ça va tout crématiser en même temps que le corps. C'est sûr qu'un pacemaker.
Une dent en or.
Aussi. Tu sais, c'est sûr que peut-être qu'il va y avoir une dent qu'on va retrouver après, là, lorsqu'on va broyer les cendres, là, évidemment, on se le cachera pas. Là. Les cendres, quand ils sont récupérés, c'est un amas de d'os qui reste, là. Et par la suite, ils sont comme broyés pour donner le petit sable, la petite cendre là, qui reste à la toute fin. Mais tu sais, exemple, nous, on va retirer, en fait, le pacemaker. Oui, parce que c'est compte tenu qu'il y a une petite batterie à l'intérieur, ça pourrait créer là, un enjeu où il y aurait des micro-explosions là, qui se feraient dans le crématorium. Donc, on doit le retirer. Mais, tu sais, les gens qui ont des hanches en plastique, qui ont des hanches en métal ou qui ont tel autre truc de métal dans le corps, ça ne change rien. Ça va juste rester dans le four crématoire et ça va être retiré par après avec un aimant et ça va être mis de côté. Puis c'est une entreprise de l'extérieur qui vient les récupérer.
Est-ce que vous manquez de place dans le congélateur?
C'est une salle réfrigérée. On congèle les corps. Oui. Ouais, on congèle les corps quand il y a une présence d'asticots ou tout dépendant si, genre, le corps est non réclamé ou des choses comme ça. Parce que passer un délai de 30 jours, ça devient un peu plus problématique. T'sais, je disais tout à l'heure qu'on est régi par des lois, mais on est dans une salle réfrigérée d'environ à peu près 4 à 5 degrés. Donc, moi, au travail, oui, j'ai une très grande capacité pour recueillir des dépouilles, mais il y a certaines entreprises dans les régions là, que...
C'est plus difficile.
C'est un petit peu plus difficile, mais on a aussi les morgues dans les hôpitaux, comme par chez nous, à Baie-Saint-Paul, ben c'est un tiroir. Tu sais, la mode là, des tiroirs...
Oui, comme ça, dans les films. Là.
Comme dans les films. C'est deux tiroirs, comme un classeur.
C'est donc bien particulier.
Un cours de thanatologue, ça dure combien de temps?
C'est un DEC, en fait, un DEC au cégep. C'est une technique de 3 ans.
Donc, c'est 3 ans.
Oui.
Les salaires que vous pouvez gagner en tant que thanatologue, ça peut ressembler à quoi?
Généralement, ça joue aux alentours de 60 000, 75 000 par année.
Puis, y a-tu un bon taux de placement?
Oui.
Ah, ouais.
On est en manque de main d'œuvre, donc c'est un 100 % de placement, là, c'est certain.
100 %
Je dirais peut-être pas ça comme ça. Je pense que mon coordonnateur de programme ne m'aimerait pas, là, mais tu sais, oui, c'est facile de placer là, des gens, là, parce que, tu sais, oui, on a une très forte demande, puis on s'en cachera pas, il va y avoir le dead boom aussi qui va s'en venir, donc on s'attend à avoir là, du décès là, par année, là, pas pire.
À cause de la génération qui va nous quitter.
Effectivement.
Ouais. OK. Puis, tu me dis, est-ce qu'ils en ont besoin partout dans toutes les régions? Hein? C'est pas, mettons, quelqu'un qui décède, je sais pas moi, à Saint-Anne-de-Beaupré, c'est-tu Québec qui s'en occupe? Comment ça fonctionne?
Nous, on dessert la capitale nationale, un peu sur la rive sud, mais tu sais, des fois, je vous cacherai pas qu'on va chercher des corps à l'extérieur, exemple la Tuque ou peu importe, parce qu'ils font affaire. Mais il y a plusieurs causes. Là, je veux dire, moi, je viens de Baie-Saint-Paul, je reste à Baie-Saint-Paul, mais mon beau-père est décédé à l'enfant Jésus. Mais on a fait une partie de ses funérailles, on a fait une partie de son dossier ici, mais on a collaboré avec l'entreprise de Baie-Saint-Paul pour les rituels funéraires, mais tout dépendant aussi, souvent, c'est la famille, les gens restent dans les métropoles, dans les centres, et puis lorsque les gens sont à l'extérieur, bien souvent, ils veulent rapprocher le corps d'une certaine façon, mais exactement. Mais pour la main-d'œuvre, oui, on manque de thanatopracteurs, on en a toujours besoin. Des gens du milieu aussi, justement, vu que c'est tabou, tu sais, les gens n'osent pas nécessairement... venir présenter leur CV parce que là, soit qu'ils ont peur ou qu'ils méconnaissent ce métier-là. Donc oui, on va toujours avoir besoin de monde, c'est certain. Dans les grands centres, c'est un petit peu plus facile de trouver, évidemment, là, du staff, comme on dit. Mais c'est sûr, moi, je prône quelqu'un qui est très réactif dans une entreprise, en fait. Moi, j'ai suivi l'AEC avant mon DEC. Et puis, ce qui fait en sorte que je suis comme mille et une tâches. Je suis très tâche connexe. Je peux autant faire de l'aide laboratoire que de faire du transport, que faire les agents d'accueil, du conseil aux familles. Donc, tu sais, dans les régions, c'est ce qu'on voit beaucoup, les gens qui font un peu de tout.
OK. Des auditeurs qui nous écrivent. Salut, je suis thanatopracteur et j'ai procédé, moi aussi, à l'embaumement de ma grand-mère. Le deuil était en effet plus facile à vivre.
Et c'est capoté. Moi, ma dernière question est vraiment simple. Es-tu plus féminin ou masculin comme domaine?
On a une cohorte pas mal de filles, en tout cas, en ce moment, nous autres. Ouais.
Qui trippent sur les chats.
C'est ça qu'on a appris. On a quelques hommes, en fait. Mais tu sais, il y a beaucoup d'embaumeurs qui sont issus de grand-père à grand-père, père à père. Là, mm-hmm. là on est vraiment dans le old school. Là. Mais oui, on a une tangente plus féminine chez les embaumeurs. Mais tu sais, on a encore certains hommes là, qui ont les guts là, de venir se frotter à des femmes.
Moi, j'avais une vision que c'était plus masculin, vois-tu, c'est particulier.
Ben, dans le temps, c'était beaucoup ça, anciennement. Mais tu sais, aujourd'hui, on a quand même la féminisation là, qui... On est vraiment, tu sais, plus sur un piédestal là, avec les hommes et les femmes là, dans le domaine.
Hé, hey, Marie-Pierre, on aurait pu jaser pendant des heures et des heures, j'ai l'impression. Visiblement, ça intéresse notre monde parce que ça réagit beaucoup au 971-1021 puis sur le Twitch. Merci de t'être déplacée, d'être venue démystifier ce métier-là avec
ça
nous aujourd'hui.
Ça fait plaisir. Merci pour l'invitation.
Marie-Pierre Charest-Godreau, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
À la prochaine.
Salut.
À la prochaine.
Il reste plein d'autres questions.
Mais moi, je suis en confiance si je décède. Là. Oui. C'est Marie-Pierre que je vais appeler.
C'est Marie-Pierre. 11h14, on vient.
Ce segment d'émission, présenté par le Centre d'Instruction.
Ah, Audrey. On va parler de plein de sujets hyper intéressants. Merci beaucoup, c'était super cool, cette petite jasette-là avec une thanatologue. Hey, les remparts sont de retour, les amis, au Centre Vidéotron pour la nouvelle saison. Puis grâce à Boulevard 101, vous pourriez gagner votre paire de billets pour la saison pour aller encourager votre équipe préférée. Et à cela, ben, on ajoute le kit fan numéro 1 qui va comprendre les casquettes, la main mousse, les sacs de transport avec des cordons et des rondelles. Et ça inclut 32 matchs à domicile. Donc la poursuite de la rivalité contre Shawinigan, notre espoir de gagner contre Rimouski et Chicoutimi, le populaire match Rock Boulevard 102-1. Un peu plus tard cette saison, bien entendu, on aura l'occasion de vous en reparler. Et même vos sièges réservés en cas de présence en série éliminatoire. Donc, pour courir la chance de gagner vos billets, vous avez juste à aller inscrire le score fictif du jour sur blvd.fm. Donc, blvd.fm, je veux le score fictif du jour. Et aujourd'hui, le score fictif, c'est 7-3 contre le Drakkar de Bécomo. Et le gagnant va être annoncé dans l'émission Gravel dans le retour ce vendredi. Bonne chance!
Je suis encore bien fascinée.
Pour?
Et je vais avoir de la misère à revenir. Je pense que je vais réécouter cette entrevue.
Il y a quelqu'un qui a dit, Yann, t'as-tu invité un embaumeur en prévision de ton combat vendredi?
Peut-être.
Non, mais il n'y a jamais de hasard.
Il faut avoir la meilleure dans la région, c'est pas compliqué.
Il n'y a jamais de hasard dans la vie. Puis là, gros goré, comment il s'appelle? Steven Sullivan?
Oui.
Qui est allé faire un tour chez Matériaux D. Il a acheté une masse.
Oui, il s'est trouvé drôle, hein? Ouais, il est allé acheter du matériel pour te casser comme du monde.
Il a acheté une masse. J'ai vu qu'il avait acheté d'autres trucs. Là. Je ne sais pas s'il va utiliser ça tout vendredi, mais en tout cas, bref. Ou si c'est certains soirs.
Tu commences à être stressé sans blague?
Pas pantoute.
Zéro open bar?
Non. J'ai pas de stress. Les seules choses qui peuvent me stresser dans la vie, c'est des choses que je peux pas contrôler. C'est la famille Lavemontagne qui va venir me voir, la famille qui m'a recueilli quand j'étais jeune, puis mes enfants, la réaction de mes enfants. Je sais pas comment ils vont réagir, mes enfants, quand ils vont me voir me faire défoncer la gueule.
Mais non, mais là, ils savent que c'est de la lutte, là. Faut que tu les prépares mentalement.
Okay. T'as pas vu un coup de poing, mettons une slope, là, directement. Comment que c'est pas ça? Une claque, là, directement sur le chest.
Je suis déjà allé voir de la lutte au centre Vidéotron.
T'as assez vu Max quand il en a reçu une de Sullivan?
Oui. Oui,
il a failli passer par la fenêtre.
Je me souviens de sa tronche.
Son âme avait quitté son corps. Ben c'est ça. C'est plus leur réaction à eux autres. Là. C'est des gens que j'aime énormément. Mais sinon, la soirée, vous allez avoir un super de bon spectacle. 7 combats professionnels. Il va y avoir un band rock sur place. Tous les animateurs de la station vont être là. Il va y avoir un service de bar aussi pour prendre une petite bière. Fait que ça va être vraiment nice.
Ton nom?
Mon nom, Yannick Marceau.
Il nous reste, oui, mais ce ne sera pas ton nom ce soir-là. Il nous reste le combat à jaser ensemble parce que là, on a les demi-finales qui commencent aujourd'hui. C'est-tu les 4 qui sont passés en demi-finale?
Non, vas-y.
Marceau Pilami, Marceau de Viande, Marceau Piqueur et Marceau Polo.
Et Marceau de Viande, ça n'a pas de bon.
Je te souhaite que ça passe pas, Marceau de viande. Si ça peut te rassurer, le vote d'aujourd'hui, c'est Marceau Pilami contre Marceau de viande. Fait qu'aller voter, mais à 56 % les gens préfèrent Marceau Pilami. Fait que tu risques de t'en sortir, mon ami.
Ah, merci.
Fais-tu ton bonheur, ça?
Oui, ouais, ça fait mon bonheur. Bon, on reprend ça demain, ma belle Audrey. Yes. Sinon, on t'écoute tantôt avec Denis et Véro dans le Absolument. Retour à partir de 14 h. Pascal CV s'en vient. Les Cowboys fringants.